dans les CHSLD et les résidences pour aînés de façon générale. On va aller rejoindre d'abord le Dr Kwok Din Nguyen, qui est interniste en gériatrie au CHUM. Gériatrie, c'est bien la spécialité pour les personnes qui reçoivent des soins comme aînés. Docteur Nguyen, bonjour.
Bonjour.
Faites-nous un petit peu le portrait d'abord de la difficulté à laquelle nous faisons face actuellement dans les résidences pour aînés. Les CHSLD, par exemple, là, je le rappelle, à peu près le 2/3 de tous les décès là, liés au virus se sont produits soit en CHSLD, soit en résidence pour aînés.
Oui, la difficulté à laquelle on fait face, toutes les sociétés occidentales font face à la même, là, c'est qu'on voulait protéger nos aînés parce qu'on a des signaux très forts que la mortalité est jusqu'à 100 fois plus élevée chez les 70, 80 et plus que chez les plus jeunes. Et donc, au départ, le plan, c'était, bon, on va en faire des forteresses, on va isoler les milieux de vie aînés du reste de la communauté, on va espérer que la transmission ne se produira pas. Malheureusement, avec ce virus sournois, la transmission s'est produite pour toutes sortes de raisons, mais puis pas juste ici, là, partout ailleurs dans le monde, c'est les résidences pour aînés qui sont les plus touchées. Et donc, c'est sûr que c'est ça le son de cloche. On a appris ça, j'ai l'impression, un peu sur le tard. Là. Depuis une semaine, on en parle beaucoup, mais ouais. Avec ce virus-là, quand on apprend quelque chose, c'est que ça fait une, deux semaines qu'il se promène déjà.
Là, ce qu'on réalise, Dr Nguyen, c'est que c'est le personnel qui aurait agi comme vecteur de transmission. Donc, même si on bloquait les visites, dans les faits, on avait des personnes qui travaillaient comme préposées, comme infirmières, peu importe, qui étaient porteuses du virus, mais ne le savaient pas. Fait qu'elles traitaient des aînés, des personnes aînées. Et tout d'un coup, on se retrouve comme à Laval, avec une immense éclosion. Là, au CHSLD Sainte-Dorothée, vous avez une centaine de personnes infectées, mais vous avez surtout... Alors, vous avez aussi 8 décès, malheureusement, mais vous avez 48 membres du personnel qui sont contaminés et qui, selon toute vraisemblance, ont été les personnes qui ont propagé le virus dans le CHSLD.
Oui, il y a une chose, c'est que je pense que d'interdire les visites est à la bonne affaire, parce que vous imaginez que la transmission serait probablement encore pire si on avait permis plus de contacts. Là, c'est sûr qu'il y a une phase pré-symptomatique, asymptomatique, c'est-à-dire les gens transmettent la maladie sans le savoir. Et donc, ça devient extrêmement difficile de savoir qui pourrait le transmettre, de qui pourrait ne pas le transmettre, alors qu'il faut absolument offrir des soins à ces gens en perte d'autonomie. Donc, la question n'est pas certainement pas de dire que c'est la faute des soignants, puis je pense pas que c'est ce que vous dites, puis je
non,
pense pas que
sûr.
Personne pense ça. La clé vraiment, là, c'est sûr que si quelqu'un qui est un soignant a le moindre symptôme de ne pas aller travailler, je sais que c'est difficile, puis je sais qu'il y a de la pression pour forcer les gens à y aller, mais ça, c'est une chose qu'on contrôle. Ensuite,
est-ce qu'on ne devrait pas tester, docteur? Est-ce qu'on ne devrait pas tester systématiquement le personnel?
Il y a deux choses à ça. Un, c'est qu'on manque de réactifs pour faire des... Puis encore là, partout sur Terre, on manque de réactifs pour faire des tests généralisés. Le deuxième point, c'est que ce virus-là, là, même si on teste négatif à un moment, ça ne veut pas dire que 3 jours plus tard, on n'aura pas développé la maladie. Ça s'appelle le concept de la sensibilité. Là, le test n'est pas parfaitement sensible.
Ouais.
Contrairement à d'autres maladies où quand on teste, s'il est négatif, bien, on ne l'a juste pas. Ce virus-là, si on teste trop tôt, c'est une fausse réassurance. C'est un peu la même chose. On peut ne pas avoir de symptômes et tester négatif.
Et être quand même porteur. C'est juste qu'on est...
Être porteur, ouais. et transmettre à nos collègues, ouais. Et transmettre aux patients.
Wow.
L'alternative qu'on a, et je pense que les gens se réorganisent, on sent une volonté, c'est probablement dans le meilleur des mondes d'avoir un soignant par résident. Si on arrivait dans un monde utopique, là, vous me direz, à réduire ça à 1 pour 1 ou 1 pour 3 ou 1 pour 4, ben les chaînes de transmission seraient beaucoup moins grandes. Parce que là, le danger, c'est qu'on manque de personnel et donc un membre voit 5, 10, 20 résidents. Puis il n'y a pas le choix parce que ces résidents ont besoin de soins, sinon ils vont dépérir sans lien avec la COVID. Mais ce membre du personnel-là peut le transmettre sans le savoir, puis c'est pas de sa faute,
oui.
À plusieurs. Puis comme je vous dis, même pour les tests, la difficulté, c'est il reste que c'est pas parfait et on n'en a pas des millions. Là.
Alors, si le Dr Nguyen était ministre de la Santé, puis il avait le pouvoir de faire un changement ou deux changements rapides pour freiner la contagion et limiter le nombre de décès chez nos aînés, il ferait quoi?
J'aimerais pas être cette personne. Mais je vous dirais, ce que je ferais, c'est que je ne sais pas la quantité de masques dont dispose le gouvernement, mais je masquerais et je mettrais des lunettes à 100% du personnel avec symptômes, pas de symptômes, COVID positif, pas de COVID positif. Je mettrais des masques. C'est différent de la population générale, là, je tiens absolument à le dire, mais en CHSLD et en résidence privée, je ferais ça. Deuxièmement, j'essaierais de réorganiser les soins pour minimiser le nombre de contacts que les membres du personnel ont avec des résidents différents. Et à quelque part, là, je réitère, mais c'est qu'un membre du personnel ne s'occupe que de 4 personnes. Et finalement, je pense qu'il y a toujours la distanciation physique. Hein. Il y a beaucoup de chambres en CHSLD qui sont à plusieurs, à occupation double, des fois quadruple. Mais là, donc, ça rend l'isolement extrêmement difficile. Et si vous me permettez, bon là, je vous en donne plus que vous me demandez, mais c'est les résidences privées pour aînés. Alors, on parle énormément des CHSLD. Il y a 2 semaines, on n'en parlait pas, mais là, je vous dis, si on ne fait rien puis on se concentre que sur les CHSLD, dans 2 semaines, on va parler que des résidences privées autonomes. Là.
C'est bien noté. Dr. Kwok Din Nguyen, donc, il est interniste en gériatrie, de la misère avec ce mot-là aujourd'hui, gériatrie au CHUM. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va aller rejoindre maintenant une médecin omnipraticienne, donc qui pratique donc la médecine et qui fait partie de ces médecins aujourd'hui dans le papier de Marie-Ève Cousineau dans Le Devoir, là, qui dit « Envoyer du renfort dans les CHSLD ». Docteur Choquet, bonjour.
Bonjour.
Quel genre de renfort? Est-ce que c'est des médecins, par exemple, que ça nous prend? C'est des infirmières, des préposés, toutes ces réponses?
Je vous dirais vraiment des mains sur le terrain parce qu'effectivement, comme mon collègue disait plus tôt, on manque de personnel en CHSLD même avant la pandémie, donc c'est pas mieux maintenant, on s'entend. On perd des membres à la quarantaine et tout ça, les gens sont inquiets aussi. Donc, ça prend du personnel pour nourrir les gens, les changer, les soins de base. Ensuite, ça prend de l'équipement de protection personnelle qui ne se rend pas en ce moment dans les CHSLD et, comme il disait si bien, dans les résidences privées et autres endroits où il y a plusieurs personnes âgées vulnérables ensemble.
Parce que le matériel est concentré dans les hôpitaux, c'est ce qu'on comprend, parce qu'on attendait évidemment une hausse importante du nombre d'hospitalisations, du nombre de personnes en soins intensifs. Donc, c'est normal ait beaucoup, mais là, il va peut-être falloir, rebrasser les cartes et envoyer du matériel de protection dans les résidences pour aînés au sens large.
Oui, il faut comprendre qu'en ce moment, tout le monde travaille très fort et au ministère et en santé publique et surtout le personnel sur le terrain. Les directives du ministère ne se rendent pas toujours sur le terrain. Moi, j'ai le malheur de travailler dans 2 CIUS, donc je dois passer 3 heures par jour à lire des courriels, des recommandations. On a des rencontres téléphoniques, des recommandations. Je fais de l'obstétrique aussi, donc de la SOGC. Donc, c'est très difficile de voir là, la saveur du jour, les recommandations et de les mettre en plan. Et donc, peut-être que les gestionnaires dans les CHSLD ont fait des commandes basées sur les recommandations d'il y a 2 jours, il y a 3 jours, mais on sait qu'en ce moment, la majorité des morts se passent chez des clients de CHSLD, soit sur place ou transférés parce qu'ils ont un niveau de soins plus élevé et qui pourraient potentiellement être intubés. Il faut comprendre que le seul soin qu'on peut offrir à l'hôpital, de plus qu'en CHSLD, c'est une intubation. Mais toujours est-il que le ratio de personnel est vraiment pas le même dans les CHSLD.
Il ressemble à quoi le ratio, justement?
Oh, je ne sais pas les chiffres exactement. Moi, je ne travaille pas en CHSLD. C'est une des raisons que j'ai accepté de parler et de mettre mon nom. Personne ne m'a mandaté, mais j'ai plusieurs consoeurs qui travaillent et j'ai dû aller constater des décès dans au moins 2 milieux dans les derniers 8 jours. Et on voit que quand je me présente, il y a 2 personnes pour tout l'étage, là. OK? Donc, c'est pas normal. Il devrait avoir des ratios beaucoup plus élevés parce que l'éclosion en ce moment est majoritairement là.
Vous êtes allé signer des constats de décès dans des CHSLD, c'est ça que vous avez dit, là?
Oui. Parce que des fois, le médecin est passé le matin, puis là, le médecin est rendu à son bureau en train de faire le reste de sa pratique, des rendez-vous téléphoniques. Donc, on me demande d'aller dépanner pour que les infirmières puissent continuer le protocole qui se passe là, quand il y a un décès à l'étage. Et donc, je monte dans mon hôpital ou je vais ailleurs et je constate un décès. Alors, je pense que ça va prendre des jaquettes. Il n'y a plus de jaquettes. Même à l'hôpital, c'est difficile d'en avoir. Je pense qu'il va falloir qu'on pense, là, comme on dit, le think outside the box. C'est des gens qui savent coudre. Ça va nous prendre des patrons pour des jaquettes. Il va falloir qu'on puisse faire des dons dirigés. Il y a toutes sortes d'endroits, là, donner la protection en ligne, des gens qui font des collectes non officielles de matériel pour les distribuer, parce qu'effectivement, on parlait des ressources privées. Vous savez, les CIUS, on a des commandes, mais quand on est dans une ressource privée, essayer de passer une commande pour des masques en ligne en ce moment, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est nous qui devons les aider. Nous, on a fait appel à des dons partout, on fait des dons dirigés de matériel. C'est quand même mieux d'avoir un matériel qui n'est pas nécessairement approuvé que pas du tout de matériel.
C'est
donc,
sûr,
on fait ce qu'on peut, mais il va falloir qu'on cause des jaquettes. Il va falloir, là, il y a des médecins qui ont demandé là, le port de tout le monde, mais pas obligatoire, là, mais pour les gens qui le désirent, partout dans la rue, parce que même si ça diminue la transmission de 1%, même si, tu sais, c'est tous des petits gestes qu'on peut faire pour nous aider en ce moment, ça va prendre la sécurité à l'entrée des CHSLD comme ça l'est à l'entrée des hôpitaux. Moi, quand je vais travailler dans mon hôpital, je me fais arroser de Purell et questionner. Il faut que ce soit la même chose en CHSLD. Il faut qu'on ait des équipes dédiées aux cas positifs, des équipes dédiées aux cas négatifs sur des étages différents. Il ne faut pas qu'il y ait de croisement.
Pensez-vous que le temps est venu de tester tout le monde?
Non, ça ne change rien parce qu'on peut tester négatif aujourd'hui et peut être positif demain. Si on a des symptômes, on n'est pas là. Tous les soignants devraient avoir un masque et des goggles, là,
des,
OK?
Des gants, ouais.
Je parle pas d'un masque N95 nécessairement, un masque de procédure.
Oui, OK.
Tu sais, il y a des moyens de faire ça. Si les gens veulent coudre, j'espère qu'on va nous sortir des patrons pour les masques puis les jaquettes. Il y a plein de gens à la maison avec des machines à coudre qui voudraient aider. On commence à faire le délestage, le personnel qui va être réassigné au CHSLD. Si on veut pas qu'il y ait peur, il faut que ça soit géré comme un hôpital. Okay? Il y a des endroits là qui sont même pas dans le réseau, qui sont plus comme dans le communautaire, qui ont des personnes âgées, qui ont plus de personnel, ils ont même plus de gestionnaires. Donc là, ça va prendre des gestionnaires, du personnel, des préposés, ça va prendre des mains, puis ça va prendre qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils aient l'équipement de protection. Comme par exemple, en ce moment-là, moi, je dois me déplacer pour aller signer un constat de décès. C'est pas normal. Ça veut dire que moi, je vais aller être exposée là, puis après ça, dans le milieu où je vais aller faire le reste de ma journée, je vais aller exposer les gens. Il faut que les infirmières puissent le faire sur place. Je veux dire, si le patient il est décédé, je pense qu'on est tous capables de déterminer ça, là, dans une situation de pandémie. Moi, je me fais rappeler par la santé publique 4 jours après avec des questions que je dois remplir par rapport à un patient que je ne connais pas. Il va falloir que ces questions-là, y a-tu voyagé, y avait-tu mal à la gorge, y avait-tu de la toux, ça soit à côté des constat de décès dans les centres de longue durée pour qu'on les remplisse au fur et à mesure ces questions-là, pas essayer de s'en souvenir 4 jours après.
D'accord.
Il va falloir qu'on ait des discussions au niveau des niveaux de soins avec les gens qu'on aime, avec nos familles, les personnes âgées, les personnes vulnérables, mais nous aussi, qu'est-ce qu'on voudrait? Puis je pense que ça pourrait être correct de dire je veux une intubation si j'ai un accident d'auto, mais je veux pas d'intubation si j'ai le COVID. Tu sais, c'est des discussions qu'on va devoir commencer à avoir. Il y a une urgence d'agir dans les CHSLD. Il faut qu'on puisse rassurer notre personnel. D'accord. Il y a moyen de le faire, mais c'est vraiment le prochain 72 heures, parce que sinon, bien, c'est facile, ils vont tous passer au travers. Puis, comme je vous dis, c'est pas juste les personnes qui habitent là, c'est le personnel.
Docteur Julie Choquette, omnipraticienne, qui prend la parole au nom de ses collègues. Merci beaucoup, docteur.
Bonne journée.
On va aller rejoindre maintenant la directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés, Annick Lavoie. Bonjour, Madame Lavoie.
Bonjour, M. Dréville.
Donc, vous représentez des résidences pour aînés. C'est géré par le privé, mais c'est comme un CHSLD public. C'est les mêmes employés, c'est les mêmes conventions collectives, les résidents payent le même prix, mais ça s'appelle un établissement privé conventionné. Là, évidemment...
Je voudrais juste porter une petite correction.
Ouais.
Ce ne sont pas des résidences pour aînés, ce sont des CHSLD. Et on a deux centres de réadaptation.
OK. Vous me dites que ce n'est pas des résidences pour aînés?
Non, pas du tout. Ce sont vraiment des CHSLD.
Ce que vous représentez, ce sont des CHSLD?
Des CHSLD et des centres de réadaptation.
Bon, OK. Mais gérés par le privé?
Gérés par le privé, exactement. Bon. Service public.
Très bien. Est-ce qu'il y a un problème avec la COVID-19 dans certains de vos établissements?
C'est certain. Tout ce que votre... Vos deux personnes qui ont parlé avant,
oui,
ont mentionné exactement, on vit tout à fait la même situation. On a beaucoup de problèmes dans l'approvisionnement avec les équipements de protection individuelle et même dans les produits réguliers qui sont pas nécessairement liés à la COVID-19, là. On a de la difficulté à être approvisionné. Normalement, on fait affaire avec des fournisseurs réguliers dans ce qu'on appelle l'approvisionnement en commun. Mais ces fournisseurs-là ne veulent plus nous fournir parce que tout est réquisitionné par le ministère de la Santé. Puis c'est distribué au SUS et CIS. Alors, c'est eux qui doivent nous approvisionner. Et puis, généralement, ben eux autres aussi, ils sont pris avec une pénurie.
Une rareté, à tout le moins.
Exactement.
Oui.
Bon. Donc, ils nous approvisionnent pour 24, 48 heures maximum.
Alors, je vous pose la question que j'ai posée à Dr. Nguyen tout à l'heure. Là. Si vous pouviez changer quelque chose, vous changeriez quoi, Mme Lavoie?
Si je pouvais changer quelque chose, je vous dirais, évidemment, on prendrait de l'équipement de protection individuelle pour l'ensemble des employés, qu'on soit en zone chaude, en zone froide, zone grise, peu importe. Et on n'aurait aucune admission, nouvelle admission en CHSLD le temps que on passe à travers la crise de COVID pour éviter d'avoir le loup dans la bergerie, si vous me permettez l'expression.
Avez-vous assez de personnel?
C'est sûr et certain que notre personnel est très, très fatigué. On en manque, nous aussi, parce qu'on était en pénurie déjà au départ, avant la pandémie. Ça, c'est pas amélioré. On a des employés qui sont en retrait parce qu'ils ont été testés positifs, d'autres qui sont en retrait parce qu'on attend le résultat, etc. Mmh. Donc, on est en pénurie de personnel également et c'est un manque criant, effectivement. Puis nos gestionnaires propriétaires, ben, ils sont à pied d'œuvre là, 7 jours sur 7, 15-16 heures par jour.
Est-ce que quelqu'un vous a appelé pour vous dire on vous envoie du matériel, le matériel que vous manquez, là, avez-vous le sentiment que ça va se résorber rapidement?
Mais écoutez, chaque établissement envoie à son CIS ou son CIUS là, les demandes, les besoins de façon quotidienne. Mais à l'occasion, ça va arriver au compte-gouttes, puis des fois, on n'en reçoit pas suffisamment. C'est certain que les inventaires qu'on avait avant la pandémie, ben, ils sont épuisés, hein, on n'en a plus.
Donc, c'est difficile de protéger vos employés dans des conditions comme celle-là?
C'est tout à fait difficile, oui. On gère ça vraiment de façon très parcimonieuse. Là. Les équipements sont gardés dans un bureau barré, puis c'est très, très limité. Là.
Donc, l'idée de dire tous les employés devraient porter un masque à partir de maintenant, vous n'avez pas assez de masques, dans le fond, pour le faire, c'est bien ça?
Non, on n'a pas assez d'équipement pour faire ça.
Fait qu'il y a un risque que certains de vos employés qui sont asymptomatiques transmettent le virus aux résidents. Il y a ce risque-là, nécessairement.
Comme partout ailleurs, comme partout dans le réseau, effectivement.
Annick Lavoie, directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés. Bonne chance, lâchez pas.
Merci beaucoup. Au revoir.
Après la pause, je prends vos appels 790-9850. Est-ce que la situation dans les CHSLD vous inquiète? 98985 par texto. Drainville-la-commerciale, 985fm.ca.